Les chemins de la sagesse, une émission proposée par Michel Théron.
Michel Théron, bonjour.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors nous continuons à lire, Michel Théron, votre livre sur les chemins de la sagesse, publié aux éditions BOD. Nous abordons la question du souci de soi. Et vraiment là, vous avez vraiment déployé tout un arsenal de commentaires philosophiques, de citations bibliques, pour arriver à la conclusion qui serait que si on ne s'occupe pas de soi, cela va avoir des graves conséquences sur notre relation à l'autre.
Absolument.
Il faut prendre soin de soi, malgré peut-être toute une culture populaire qui nous dirait que voilà, il faut avoir prendre soin de l'autre avant soi-même.
Oui, mais se décentrer de soi.
Il faut bien sûr ne pas être égocentrique, vous l'avez dit, mais il faut quand même avoir un peu d'égoïsme.
Absolument.
Ça fait du bien à tout le monde.
Je pense qu'il faut se centrer, hein, et ensuite s'ouvrir vers les autres. Mmh. Finalement, le sacrifice inconditionnel ne me semble jamais une bonne chose. Mmh. Hein. Et j'avais dit, là, en terminant la dernière émission, oui, la semaine dernière, que le mépris de soi menait à l'agressivité, à la violence. Hein, puisque à force de se faire violence à soi-même, eh bien, on devient agressif, intolérant, fanatique, psychorigide, tout ce que vous voudrez.
Hein. Vous êtes même appuyé, Michel Théron, sur les propos de Paul, qui se qualifie d'avorton parce qu'il considère que le Christ est apparu à lui, ressuscité comme un avorton. Et finalement, ça vous plaît pas.
Et non, parce qu'après, il y a une très grande violence de Paul, hein, qui traite d'anathème tous ceux qui ne partagent pas ses idées. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, eh bien qu'il soit anathème, vous voyez. Donc, c'est quelque chose. Si un ange du ciel... Alors, c'est très curieux, ça fait penser à ce que sera bien plus tard, des siècles après, la révélation du Coran au prophète Mahomet. Hein. Si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous enseigne, dit Paul, eh bien, qu'il soit anathème. Donc il y a une violence très grande qui est corrélée, à mon avis, à ce mépris qu'il a eu de lui-même en s'appelant avorton.
Hein. Voilà. Donc vraiment, ce n'est pas une attitude, un comportement à...
L'agressivité qui se porte sur les autres. Mmh. Et aussi, vous voyez, Guylaine, lorsque l'agressivité ne peut pas se porter sur l'extérieur, elle peut se retourner contre soi-même. Mmh. Je prends l'exemple du scorpion. Lorsqu'il est entouré de flammes ou de charbons ardents, hein, il ne peut pas s'échapper de ce piège. Alors, il retourne son dard contre lui-même et il meurt. Hein. L'agressivité, quand elle ne peut pas s'extérioriser, peut s'intérioriser.
C'est aussi le cas pour l'homme. Vous prenez l'exemple du scorpion pour nous dire que...
Oui, c'est une image. C'est une image. Et je pense par exemple au cas de l'anorexie. Hein. Mmh. Elle est fréquente chez les jeunes filles à qui l'expression de l'agressivité et de la révolte est défendue par leur éducation. Alors, elles vont la retourner, cette expression, contre elles-mêmes dans une démarche suicidaire, vous voyez. Hein. Et très souvent, la conduite des anorexies des jeunes filles, la plupart du temps, vient d'une hyperlucidité sur ce qu'est la vie de leurs parents. Elles voient ce que leurs parents sont devenus. Hein. Cette vie leur apparaît comme une capitulation, l'abandon de ce qu'ont pu être leurs rêves. Et pour rien au monde, elles ne voudraient ressembler à leurs parents, vous voyez. Donc, un geste transgressif comme cela, l'anorexie, le fait de vouloir mourir, ce suicide, on dit que c'est un geste fou, mais... Très souvent aussi, on oublie que la folie est une hyperlucidité. Mmh. On dit fou allié, mais on pourrait dire lucide allié. Hein. Mmh. C'est une très grande lucidité.
Mais c'est un phénomène aussi d'autopunition, finalement, parce qu'elles se font du mal.
Elles se font du mal volontairement. Alors, dans un autre livre dont nous avons déjà parlé, Guylaine, qui s'appelle « Marge du livre », le sous-titre étant « Fiction biblique », paru chez BOD, le même éditeur que le livre sur la sagesse, « La l'année dernière, en 2017, j'ai parlé de l'anorexie. Et j'ai imaginé un dialogue entre les parents, la jeune fille anorexique, et puis la venue d'un étranger. On verra qui est cet étranger. Alors je me permets de le lire. Les parents, eux, « Mais qu'a-t-elle donc ? Vraiment, nous ne comprenons pas. Nous la choyons le plus que nous le pouvons. Elle ne manque de rien. Elle a tous les atouts pour elle. À l'école, elle réussit très bien. Elle est en tête de sa classe. » Mais aussi, pourquoi se tient-elle à l'écart de ses camarades? Pourquoi recherche-t-elle ainsi la solitude? Apparemment, elle n'est pas comme les autres, elle n'est pas d'ici. Mais surtout, pourquoi refuse-t-elle de manger? Peut-être fait-elle un régime pour ressembler à ces modèles sur papier glacé qui fascinent les adolescentes? Pourtant, elle n'a jamais été grosse. Pourquoi aussi ce mutisme avec nous, ce refus de la table familiale? Elle a une mine cadavérique. Oui, c'est ainsi, c'est un lent suicide, une mort programmée. Si un miracle ne vient de la médecine, elle mourra sûrement. Nous ne verrons plus la charmante petite fille que nous avons tant aimée, si pleine de promesses. Mais que lui avons-nous fait? Alors, elle, la réponse de la fille. Elles n'ont rien fait que d'être devant moi tous les jours. Et ce qu'ils sont, je ne peux l'admettre. Lui, il va tous les jours à son travail, il en revient fourbu, mange, ou plutôt baffre, et puis il regarde la télévision. Cet avachissement, est-il possible que j'en provienne? Et quant à elle, satisfaite dans son rôle de mère poule, elle me dégoûte parce que je suis en train de lui ressembler. Mon corps s'est modifié et me promet aussi à un destin de mère pondeuse. Je n'en veux à aucun prix. Quelle bêtise que de penser que je fais un régime minceur, comme si je n'en voyais pas la vanité. Et quelle absurdité, quelle inconséquence à vouloir que je réussisse si bien à l'école, que j'y comprenne ce qu'on m'y apprend, et que je ne comprenne pas certaines choses à la maison. On ne peut faire deux poids, deux mesures, ou l'on reste aveuglé, ou l'on devient lucide. Ce monde qu'on me promet, il me tue d'avance. Je ne veux pas être comme eux, je ne veux pas être le tombeau de mes rêves. Je n'ai pas leur faim. C'est d'autre chose que j'ai faim. La médecine n'y pourra rien, sinon simplement me torturer. Maintenant, je veux la mort comme un long sommeil, enfin. Alors arrive l'étranger qui dit simplement « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort, qu'on lui donne à manger. » Alors, vous voyez...
Elle n'est pas nourrie de la façon dont elle voudrait être nourrie.
Exactement. Elle a une autre... Elle meurt d'une autre faim, pas la faim du corps, hein, mais la faim que la vie reste habitée par l'âme ou par l'esprit. Or, la plupart du temps, la vie des adultes est une capitulation, un suicide spirituel, en quelque sorte. Et comme elle voit justement son corps changer, elle veut pas la maternité, parce que justement...
Elle veut pas ressembler à ce qui lui semble pas un modèle de vie.
Exactement. Et alors se produit ce que je disais à l'instant, on ne peut pas à la fois vouloir que l'enfant réussisse à l'école, c'est-à-dire soit intelligent à l'école, et que chez lui, il soit bête. Hein, il reste enfant, vous voyez, c'est incohérent ça. Ça me semble impossible. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ce texte dans un livre consacré à la Bible? Parce que je fais constamment dans ce livre, marge du livre, des réécritures de passages bibliques. Et ici, j'ai fait la réécriture d'un passage de l'Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 35-43. Et vous allez comprendre qui est cet étranger. Hein. Voici ce que dit Marc. « Comme il parlait encore, il s'agit de Jésus, il vient des gens de chez le chef de la synagogue disant « Ta fille est morte, pourquoi tourmentes-tu encore le maître ?» Et Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre et à Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Et il vient à la maison du chef de la synagogue, et il voit le tumulte et ceux qui pleuraient et jetaient de grands cris. Et étant entré, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se riait de lui. Mais les ayant tous mis dehors, il prend le père de l'enfant et la mère, et ceux qui étaient avec lui, et entre là où l'enfant était couché. Et ayant pris la main de l'enfant, il lui dit « Talita kumi », ce qui est interprété est « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Et aussitôt la jeune fille se leva et marcha, car elle avait 12 ans. Et ils furent transportés d'une grande admiration. Et il leur enjoignit fort que personne ne le sut, et il dit qu'on lui donna à manger. Mmh. Donc à mon avis, cette jeune fille de 12 ans, c'est une anorexique. Et j'ai interprété comme ça. Alors évidemment, celui qui lit la Bible naïvement, il croit que c'est la résurrection d'un être qui est effectivement mort. Hein. Mais là, elle n'est pas morte, mais elle dort, elle est dans l'attente de quelque chose. Hein. Et quand on lui donne à manger, ça veut dire qu'elle cessera d'être anorexique. Mmh. Hein. Donc vous voyez, souvent, on me dit que je sors trop mes griffes devant cette Bible que je n'aime pas, c'est complètement faux. Il y a des passages que je n'aime pas, bien sûr, mais des passages qui me semblent admirables, si on sait les interpréter symboliquement. Hein. Mmh. Et je crois qu'il faut les faire vivre. C'est pour ça que mon livre s'appelle « Marge du livre ». Le livre, c'est la Bible, hein, « Marge ». Ils sont écrits en marge de ce livre. Mmh. Hein. Alors, c'est une fiction que j'ai inventée, mais je crois qu'elle est dans le droit fil, justement, de l'orientation du texte de Marc, hein. Redonner une vie spirituelle à quelqu'un qu'il a perdu.
Et les parents sont apparemment pas les meilleures personnes pour savoir ce dont manque l'enfant.
Bien sûr, parce qu'ils pensent que cela, d'abord ils font un contresens en disant elle veut maigrir comme les top modèles, être comme les top modèles, c'est un contresens complet, et puis ils pensent que c'est la médecine qui va justement guérir l'anorexique, hein, alors que si c'est un besoin spirituel qui n'est pas satisfait, ça relève plutôt d'une thérapie de l'âme, hein, plutôt que de nourrir quelqu'un par des procédés qui ressemblent parfois à de la torture. Et là, ça se passe comme ça dans les hôpitaux. Hein. Quelqu'un qui est en passe de mourir, eh bien, on le nourrit artificiellement, volontairement. Mais je crois qu'on ne veut pas faire l'économie d'une psychothérapie. Dans ces cas-là, vous ne croyez pas, Guy?
Bien
entendu.
Oui, bien sûr. Ouais.
Moi, je remarque que ces jeunes filles, j'ai parlé surtout des jeunes filles, parce que c'est chez elles que l'anorexie est le plus important, c'est souvent les plus intelligentes. Hein, les plus intelligentes, parce que, bon, bah, elles voient ce que sont devenus les parents. Hein, et elles peuvent sombrer dans la folie, comme dans Family Life de Ken Loach, je sais pas si vous avez vu ce film, hein. Quand Janice, l'héroïne, voit justement la petite vie bien étroite et mesquine de ses parents, le petit jardinier dérisoire, avec le petit nain de jardin au milieu, etc. Bon, elle ne supporte pas justement cet avenir tout tracé. Ouais. Hein, mère de famille, mère pondeuse, etc. Et alors, elle va devenir catatonique, c'est-à-dire, elle va sombrer dans la schizophrénie, effectivement. Non, hein. Et donc elle est ensuite soignée par alors c'était l'époque de la thérapie alternative, hein. Bon, c'était l'époque de Lang, de Cooper, etc., hein, de l'antipsychiatrie, ce qu'on appelait l'antipsychiatrie. Alors à un moment elle est soignée par ces gens-là, mais à un autre moment elle est soignée au contraire de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec on la nourrit volontairement avec des et aussi avec des moyens qui peuvent aller et qui peuvent aller jusqu'à l'électrochoc. Hein. Alors là, ça devient très grave. Je crois, vous voyez, Guilhem, que beaucoup de maladies graves viennent du sacrifice de soi, de l'inhibition, du mal-être, hein, que l'on a. Ce sont des autopunitions, des réponses que fait le corps à l'oubli de soi, au mépris que l'on a pour soi-même, à l'impossibilité de se révolter, etc. Hein. Alors, un autre cas, c'est le cas de Fritz Zorn dans
Mars.
Ah, très bien, oui. Là, nous allons être d'accord, hein, sur bon, ce cancer qui dévore finalement le narrateur est présenté comme le fruit de la frustration imposée par une éducation trop rigoriste, trop BCBG, bon chic, bon genre. Hein. Ouais. Donc, on lui dit qu'il faut toujours se retenir, hein, qu'il faut toujours ne pas s'extérioriser, etc. Et le cancer, justement, est créé par cette inhibition. Hein. Dont Fritz Zorn était suisse. Hein. En Suisse, ben, il y a la manie de la propreté, de rester chacun sur son quant à soi, etc. Patricia Highsmith, une romancière anglaise qui vivait en Suisse, disait que ce pays, finalement, bon, où il y avait cette manie de la propreté et du quant à soi, était un pays où il y avait aussi beaucoup de drogués, hein, et beaucoup de comment dire de dépression, hein. J'aime bien jouer sur les mots, je dis souvent asthénie au pays des Helvètes, hein, vous voyez, asthénie, une psychasthénie, ouais. Hein. Donc Frizorn, c'est voilà, c'est la tragédie de un peu de l'esprit suisse. Je m'en excuse auprès de nos auditeurs suisses, mais vous savez ce que Godard disait du drapeau suisse, il disait le sang des autres avec une croix dessus. Vous voyez le drapeau suisse. Donc effectivement, hein, dans le troisième homme de Wells, de Carol Reed, où joue Orson Welles dit la chose suivante: dans l'Italie du Quattrocento, on pouvait être agressé à chaque coin de rue, il y avait beaucoup d'insécurité dans les rues, hein, mais cela a donné Michel-Ange, Léonard de Vinci, Botticelli, etc. Tandis que en Suisse, où vous avez pas cette insécurité, où vous avez tout est propre, bien ordonné, etc., qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, le chocolat et la pendulette qui fait coucou, voilà. Vous voyez, parce que c'est une parole prononcée par Orson Welles dans le troisième homme de Carol Reed. Donc finalement, ce Frizorn, eh bien, il s'appelait Angst, qui veut dire angoisse, et il a changé son nom en s'appelant Sorn, qui veut dire colère, hein. Il explose à la fin, mais c'est trop tard, le cancer va le dévorer. Je crois que le savoir-vivre empêche de vivre, et que l'on meurt de toutes les larmes qu'on n'a pas pu verser par bienséance. Je pense aux derniers mots, justement, de Henri Calais, hein, 2 jours avant sa mort. C'est un très grand écrivain, hein, vous voyez ce qu'il disait. 2 jours avant sa mort, il écrit: « C'est sur la peau de mon cœur que l'on trouverait des rides. Je suis déjà un peu parti, absent. Faites comme si je n'étais pas là. Ma voix ne porte plus très loin. Mourir sans savoir ce qu'est la mort ni la vie. Il faut se quitter déjà. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Vous voyez, ne me secouez pas. Voilà. Il a écrit ça dans son agenda 2 jours avant sa mort, en 1956. Henri Calais. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Souvent dans la vie, on se retient, et puis soudain, le barrage cède, hein. Le barrage cède, et c'est la submersion. Tous les psychosomaticiens vous le savent, hein. Quand l'homme ne peut parler, le corps s'exprime, le corps parle à sa place, hein. Et donc, vous voyez que la maladie, c'est un mal à dire. Hein. Ouais.
Michel Théron, nous avons abordé plein de références et de sources dans ce livre sur le chemin de la sagesse. Et comment arriver justement à trouver cet équilibre, comment arriver à ne pas tomber malade parce qu'on en manque de liberté, d'expression de soi. Alors revenons, si vous le voulez bien, à cette Bible que vous agressez un petit peu, mais vers laquelle vous vous référez quand même aussi.
Oui, alors justement, dans la Bible, on peut tirer des enseignements sur le souci de soi, hein. Par exemple, Dieu dit à Abraham, en lui indiquant la terre promise, « va pour toi-même vers la terre que je te montrerai ». C'est Genèse, chapitre 12, verset 1. Hein. Alors, l'expression hébraïque est « l'er lera », hein. Je m'en suis informé auprès d'amis hébraïsants, hein, l'air léra n'est pas seulement un intensif, comme ordinairement on croit que c'est une clause de style, un intensif. Hein. Mmh. On peut lire le texte autrement. Et d'ailleurs, mon ami hébraïsant m'a dit que après Rashi, hein, on peut comprendre que l'appel vise le bien du destinataire. Va pour toi-même vers la terre que je te montrerai. C'est d'ailleurs l'option que fait Chouraki dans sa traduction la Bible juive. Hein, et il le dit aussi dans son commentaire. Donc, on trouve la même expression, ce l'air l'éra. Hein, va pour toi dans l'adresse que fait l'amant à la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Va vers toi-même, mon ami, ma belle, et viens. Dans chapitre 2, verset 10. Hein. Alors, moi, je trouve, que peut espérer de mieux une femme de la part de son amant que d'être ainsi invitée à prendre soin de soi, à s'occuper d'elle-même et à être par là jusque dans l'acmé, c'est-à-dire la culmination de l'amour physique même, dans l'orgasme, si vous voulez, révélée à elle-même, être révélée à elle-même. Hein. Ce l'air lira. Il est toujours escamoté dans nos traductions. Ouais. Hein. Mais je vous dis, Rashi, c'est pas rien, c'est un grand commentateur, Rashi de Troyes, hein, médiéval, et Chouraki reprend l'air léra, lui donnant un sens très fort. Donc il n'y a pas du tout de mépris de soi. Mmh. Hein. Il y a,
au contraire, oui.
Voilà, une réconciliation avec soi, et penser à soi est une bonne chose. Et d'ailleurs, s'aimer soi-même est le but de beaucoup de psychothérapie. Hein. Très souvent, en effet, on ne s'aime pas, on ne s'aime pas soi-même. Alors, il convient d'aller à la rencontre de soi-même pour enfin se réunir à soi. Hein. Mm-hmm. Ce fameux dégoût de soi, on dit en latin « taedium sui », ce mépris de soi, comme je l'ai dit, qui est un « contemptus sui hein, », ce sont des choses très fréquentes, et peut-être plus, hélas, dans la deuxième moitié de la vie, hein, celle dans laquelle je me trouve, hein, la deuxième partie de la vie. Hein. Donc, on ne s'aime pas. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment se regarder le matin dans la glace.
mais vous ne parliez pas d'amour physique, là, d'amour de soi-même
oui, bien sûr.
Dans le miroir. Vous parlez d'amour de soi-même, de notre esprit, de notre âme.
Peut-être, mais les deux sont liés. Vous savez ce que disait Baudelaire. Baudelaire disait « Ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. » Vous voyez, ouais. Bon, c'est fort, ça. Bon, le corps peut-être le miroir de l'âme, je ne sais pas, mais enfin, c'est vrai que, à la différence des enfants qui se font des grimaces et qui se rient à d'eux-mêmes dans le miroir, ou de ces narcissiques jeunes, ces jeunes narcissiques qui font des selfies, par exemple, bon, qui aiment, voilà. Bon, personnellement, dans la deuxième moitié de la vie, au fur et à mesure que les années avancent, on a du mal, justement, à s'aimer. Hein. Et alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes. Mais perdre l'estime de soi, se déprécier constamment, c'est un signe évident de dépression. Hein. Et une psychanalyse, par exemple, pourrait très bien se définir par le fait d'entreprendre une histoire d'amour avec soi-même. Mmh. Hein. Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe toujours. Hein. Prenons l'expérience amoureuse, c'est une constatation qui étonne toujours celui qui l'éprouve. Hein. Le miracle est que quelqu'un encore nous aime quand nous ne nous aimons plus. Mmh. Vous voyez, hein. Quand on ne s'aime pas, on ne comprend pas comment on peut encore nous aimer. Alors, sur ces maladies psychosomatiques, Guylaine, je ne sais pas si vous avez lu L'écume des jours de Boris Vian.
Oui.
Bon,
ouais.
Alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Colin épouse Chloé, bon, aussitôt, le mariage aussitôt accompli, eh bien, l'appartement se rétrécit, la lumière se raréfie. Ça veut dire qu'il y a là une espèce d'entropie, de refroidissement.
Tout devient petit.
Tout devient petit. Mmh. Hein. Et alors, Chloé, elle va tomber malade.
Oui.
Alors, elle a un nénuphar dans le poumon. Ce nénuphar, c'est une métaphore. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une tuberculose, un cancer, etc. On ne sait pas.
En tout cas, ça la ronge.
Ça la ronge. Et alors, elle voudrait que Colin, justement, la couvre de caresses ou de baisers pour la réchauffer encore. Mais non, Colin va tirer argument de ce que Chloé est malade pour dire « Ah, il ne faut pas te fatiguer, hein, je ne veux pas te toucher, repose-toi. »
Il veut la protéger.
Voilà, il veut la protéger, mais c'est une très mauvaise attitude. Donc, peut-être que l'amour de Colin, c'est-à-dire l'intérêt qu'il lui donnerait, pourrait la sauver. Hein. Mais non, elle meurt d'être abandonnée. Hein. Elle meurt d'être frustrée, hein, d'être frustrée de caresses. Alors, hélas, effectivement, souvent, le mariage, c'est ça. Hein. L'épouse tue la fiancée. Je ne sais pas, je vous vois en train de... mais cela peut...
Si on est ressuscité, tout va bien.
Ah, voilà.
Le couple renaît.
Le couple renaît, si à nouveau, comme dans La Belle au bois dormant, le prince charmant vient arracher sa belle à son long sommeil, hein, et puis, se réveille, c'est un réveil spirituel. Donc, je crois que, vous voyez, j'ai dit avant la virgule musicale, maladie, mal à dire. Quand on ne peut pas dire, hein, Chloé ne peut pas dire embrasse-moi, serre-moi contre toi, etc., alors elle tombe malade. Hein. C'est un signe, je crois qu'il y a une intentionnalité là, de la maladie. Hein. Et finalement, très souvent, la maladie se déclare quand le moi n'est pas assez gratifié, ne rencontre pas assez de la part des autres d'intérêt.
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'elle fuie finalement cette situation, cette maison, cet homme qui ne la comprend pas?
La fuite, alors oui, là je pense aux travaux de Laborit, sur l'éloge de la fuite. Hein. La fuite est très souvent effectivement une solution, alors ou le cri, le cri primal, comme le dit Janov, par exemple, aller à Palavas devant la mer et crier le plus fort possible. Hein. Ouais. Bon, ça effectivement, c'est peut-être, on reprend l'exemple de Mars de Frisson, il meurt de ne pas avoir pu crier, avoir pu s'extérioriser.
Donc, de ne pas avoir autorisé sa colère.
Autoriser sa colère. Ouais. C'est une bonne chose, la colère, parfois. Hein. J'ai parlé du jet d'encre de la sèche, mais la colère est une façon, parfois de se guérir. Le premier mot de l'Iliade d'Homère, c'est le mot colère. Hein. Méninaïdé, théa, en grec, ça veut dire chante, ô déesse, la colère d'Achille. La colère d'Achille, premier mot. Hein. Donc, ça peut être parfois une très bonne chose. Hein. Mais aujourd'hui, hélas, la colère, elle appelle le psychiatre ou bien l'avocat. Hein. Si je me mets en colère, bon, donc un procès, etc. Ça, c'est une culture abâtardie. J'ai analysé tout ça dans mon livre sur la culture générale. La culture générale expliquée, dont j'ai déjà parlé, hein, toujours chez BOD, paru l'année dernière.
Bien. Le souci de soi, on en a fait le tour.
Alors oui, mais il faudra voir de quel soi il s'agit. Alors
voilà,
là, nous ménageons l'intérêt, le suspense, parce qu'il y a plusieurs soi. Hein. Donc nous parlerons la prochaine fois du vrai soi. Enfin, il faut distinguer parmi les soi différents.
On va aller à sa découverte de ce vrai soi. Merci Michel Théron.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.